Nash, est-ce que tu vois ça?
J'ai jamais vu une chose pareille.
C'est monstrueux ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de cris, bien sûr de fureur, de romantisme, de politique, des Français, du Living Theater et même de soirée mousse. Avec Vincent McCain qui met en scène Idiot parce que nous aurions dû nous aimer, le spectacle grandiose d'une désillusion politique ou comment composer une pièce bruyante pour une génération qui a du mal à se faire entendre. Lucille Comeau.
Portrait d'un metteur en scène qui défend une naïveté salutaire en mettant sur scène les monstres lucides de la littérature.
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, ce sera le réalisateur Vincent Mariette. Et puis 19h35, plateau romantique avec Judith Broust qui signe Le Cercle des Tempêtes, un roman biographique sur la figure tragique du poète Percy Shelley et de sa femme Marie, l'auteur du Frankenstein, Lucille Comeau.
Retour sur le parcours d'une écrivaine qui tisse un lien intellectuel et poétique de Percy Shelley à Guy Debord en passant par Arthur Cravan.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le tout nouveau journal de la culture de Zoé Sfez.
How sure are you that this is the Santa Maria?
I'm extremely confident that we've discovered the wreck site. This is hitting it over the fence at Yankee Stadium with the bases loaded.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, enfin, il ne date pas d'aujourd'hui.
Il date de mai dernier, l'homme que vous entendez.
Ça nous fait le coup chaque jour.
Mais ouais, mais toujours, c'est plus rigolo les sons d'avant, puisque là en l'occurrence, cet homme que vous entendez, Barry Clifford, chasseur de trésors, à ce moment-là, quand il parle, il est certain d'avoir retrouvé la Santa Maria, le bateau avec lequel Christophe Colomb a découvert l'Amérique avant de sombrer près de la côte haïtienne et qui n'avait jamais été retrouvé. Dans cette interview à CNN, il indique qu'il se sent comme un joueur qui remporte un match dans le Yankee Stadium de New York. Il est vrai que sa découverte à l'époque avait suscité beaucoup d'espoir, mais c'est un fail, c'est ce que nous dit l'UNESCO aujourd'hui, qui a expertisé une partie du navire et qui annonce qu'il ne peut pas s'agir du Santa Maria, puisque l'assemblage du bateau relève d'une technique qui a été appliquée seulement à partir du 17 et du 18e siècle. Barry Clifford, tout de suite, doit se sentir un tout petit peu moins bien.
On passe maintenant au dossier du jour, le mouvement de contestation faiblit à Hong Kong, un mouvement qui est soutenu par beaucoup de militants en Chine continentale, mais aussi par les artistes. Et la police chinoise a organisé un large coup de filet ce week-end.
Oui, c'est ce qu'indique l'organisation de défense des droits de l'homme Right Defense Network ce week-end, qui a recueilli divers témoignages, puisqu'on le sait, c'est très compliqué d'avoir des informations sur ce type d'arrestation en ce moment. Donc ces informations nous disent que au moins plusieurs artistes contestataires ont été arrêtés dans un village près de Pékin. On est au moins sûr de l'identité de l'un d'entre eux, Wan Shan, poète, sculpteur, qui s'était déjà attiré les foudres de Pékin avec des poèmes sur les événements de 89, place Tiananmen. Alors Geneviève Imbeau-Bichet a fondé, dirige la collection littérature chinoise chez Gallimard. Elle est aussi chargée de mission culturelle à la Maison de la Chine. Elle connaît très bien les milieux culturels et elle nous explique ce qui, d'après ses informations, s'est passé. Écoutez-la.
C'est au village de Songjuang, qui est un village situé à une quinzaine de kilomètres en périphérie de Pékin, à l'est, qui a des peintres, des sculpteurs, des photographes, enfin tous. Je crois que tout est parti de la part d'un artiste qui s'appelle Wang Zhang et qui, de manière très provocatrice, s'était pris en photo. Il posait devant le drapeau taïwanais. Donc on sait tout ce que peut recouvrir Taïwan pour la Chine communiste, continentale. À l'abri d'un parapluie, le rappel, il n'y avait aucune équivoque, et il faisait un droit d'honneur. Voilà, donc les autorités n'ont certainement pas apprécié, et pour d'emblée réprimer la contestation avant qu'elle ne perce plus loin, l'ont arrêté avec, je crois, une trentaine d'autres personnes.
Alors, au-delà de cet acte précis, beaucoup d'artistes de la Chine continentale, des plasticiens, mais aussi des écrivains et cinéastes, soutiennent la contestation à Hong Kong.
Oui, et ce même si les informations de ce qui se passe à Hong Kong sont très difficiles à trouver en Chine, en dehors des infos officielles, et que, comme l'explique Geneviève Imbeau-Bichet, c'est très compliqué d'en parler avec eux par téléphone ou par mail pour ne pas les mettre en danger, la situation les inquiète et les concerne directement, puisque Hong Kong a toujours été pour eux un espace de liberté crucial.
Certains des écrivains et intellectuels avec qui j'ai eu des contacts sont très inquiets de ce qui se passe. Je pense à un auteur suédois, dont j'ai publié Lèvres pêches, un grand roman sur l'homosexualité masculine, qui enseigne à l'université prestigieuse de Pékin, qui est professeur de cinéma, etc. Il n'a jamais pu publier son ouvrage en Chine continentale et heureusement ou grâce à la liberté que Hong Kong pouvait connaître alors, bien bien évidemment, il a pu le publier, et d'une manière ou d'une autre, ça peut circuler. Si Hong Kong, qui est un petit confetti quand même sur la carte, se voyait interdire toutes ces libertés, eux-mêmes doivent se dire alors où allons-nous ?
Voilà, alors pour le moment, il est très difficile de savoir où se trouvent les artistes qui ont été arrêtés et quelles charges pèsent sur eux. Évidemment, on vous en reparlera dans le journal de la culture.
Tout de suite, on passe au bref.
Et l'on ouvre avec le bilan très positif de la 13e édition de la Nuit Blanche à Paris, consacrée cette année au street art. Ils étaient près de 2 millions à déambuler dans les rues de Paris, essentiellement autour de l'Hôtel de Ville et du 13e arrondissement.
Le premier étage de la Tour Eiffel fait peau neuve.
Anne Hidalgo, nouvelle maire de Paris, l'a inauguré ce matin. Premier étage nouveau qui accueille une salle de conférence, un restaurant et deux attractions très spectaculaires qui vous donnent la sensation du vide. Le but, réhabiliter cet étage le plus bas de la tour et qui était trop souvent boudé par les touristes.
Laurent Fabius a inauguré la nouvelle villa Kujuyama au Japon.
C'était samedi, lors de la Nuit Blanche de Kyoto cette fois-ci. La villa Kujuyama demeure la seule résidence d'artistes français en Asie. Elle a rouvert ses portes après un an et demi de travaux. Le bâtiment conçu par l'architecte Kunio Kato, qui a ouvert en 92, a déjà accueilli plus de 200 résidents à ce jour.
Et Lina se lance aussi dans la SVOD.
Et oui, à partir de mars 2015, l'Institut National de l'Audiovisuel propose un abonnement qui permettra de regarder en illimité sur Internet plus de 25 000 programmes fiction, avec notamment quelques très vieilles séries phares, je suis sûre que vous les adorez, de la vieille télé française comme Thierry Lafronde, Belphégor, les Shadocks, les Rois Maudits, de quoi faire trembler Netflix.
Tu parles. Et la dernière.
Alors c'est une histoire de retrouvailles, des vraies, des grandes, des belles retrouvailles ultimes entre une très très grande série et ses fans qui sont nombreux. Ils en ont parlé, ils en ont rêvé, certains ont même prié et ils ont été exaucés. La cultissime série de David Lynch, Twin Peaks, revient avec Maestro Lynch lui-même, le seul, le vrai, l'unique, aux commandes. Twin Peaks, cette bourgade terrifiante où la belle Laura Palmer s'est fait assassiner. 25 ans après les deux premières saisons, on retrouvera ses protagonistes tordus, le flegmatique inspecteur Dale Cooper, Audrey, la belle éthérée.
25 ans après, mais
et oui, ils vont être un peu vieux, justement. Et le terrifiant Bill, ceux qui savent, savent. Et surtout, toutes les bizarreries de Lynch, quand même, cette musique délirante et entêtante, les sols en damier, les nains improbables qui surgissent comme ça, les fumées rosâtres et terrifiantes, les personnages qui se dédoublent, se fusionnent sans jamais qu'on comprenne vraiment trop pourquoi, tout ça, quoi, ça revient. Mais il faudra être patient, car les 9 épisodes de cette 3e saison sont annoncés pour 2016 seulement. Patience.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Vincent Macken et Judith Broust? Vincent Macken, il y a quelque chose que vous voudriez commenter?
Oh non, non. Le temps de réagir à toutes les informations qu'on a reçues, quoi, parce que...
Déjà, elle nous submerge, donc en plus, il faut réagir, j'imagine.
Ouais, c'est un peu...
Twin Peaks, tout ça, les séries, vous suivez ou c'est pas du tout...
Twin Peaks, je peux pas suivre parce qu'on peut pas l'avoir encore.
Non, mais la précédente.
La prochaine.
Oui, oui, enfin,
la précédente.
Voilà. Non, la précédente, oui, j'ai pas suivi non plus, mais je les ai vues en DVD.
D'accord. On est content que du retour de David Lynch, quand même.
D'accord. Voilà. Surtout qu'au cinéma, il se fait très rare. Donc ça veut dire que c'est vers la télévision qu'il peut encore continuer à créer, manifestement. Donc pas d'autres commentaires? On commence tout de suite, alors.
Ouais,
on y va, allez, on y va.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Monstre avec vous, Vincent Macken, acteur, réalisateur, metteur en scène. Vous remontez actuellement Idiot, parce que nous aurions dû nous aimer, d'après Dostoïevski. C'est au Théâtre de la Ville à Paris. Une pièce que vous aviez créée en 2009. C'était votre première grande mise en scène, qui avait fait grand bruit aussi à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous avait poussé à mettre cette explosion sur le plateau? On était en 2009.
Quand je l'ai créé, c'était une sorte de continuité dans mon travail sur une sorte de naïveté mise à bas, comme ça. Donc on peut se rappeler ce qu'avait écrit le livre préparatoire en fait, de l'Idiot, où il écrit qu'il voulait que... J'ai toujours du mal, c'est un peu ridicule à dire Dostoïevski. Que c'est ridicule quand on monte un texte de lui, mais j'ai du mal à le dire. Bref, il avait écrit que il voulait créer un personnage sur qui on pourrait pisser, sur qui on pourrait uriner sans le remarquer. Donc c'était un peu, je voulais comme ça faire une pièce sur ça, sur une sorte de naïveté mise à bas, et c'était le texte qui me paraissait le plus proche de ça. Et je l'ai remonté avec. Cette idée-là, que quand je l'avais montée à l'époque, j'avais une forme de colère par rapport à la France, même sarkozyste un peu. Et puis, d'un coup, il y a une sorte de mélancolie qui, à mes yeux, s'est un peu instaurée comme ça en Europe. Moi, je dirais même en Europe. Et du coup, ce texte-là est revenu d'une manière assez naturelle, comme un texte de guerre et d'espoir presque amoureuse. C'est une manière, j'ai remonté aujourd'hui ce texte d'une manière un peu, en me disant il faut dire quelque chose. Et ce prince Mishkin, il essaie de parler pour continuer à faire bouger cette chose-là, en fait. Je crois que je ne suis pas du tout clair quand je parle.
Ah si, vous l'êtes véritablement. J'aimerais... Judith Broust, oui.
Oui, j'aimerais connaître l'interprétation de Vincent Macken sur la phrase tellement connue et souvent mal interprétée de l'idiot, « La beauté sauvera le monde ». C'est la beauté qui sauvera le monde. Je crois que c'est le prince Mishkin qui s'adresse à Rojovine ou je ne sais plus.
Non, ouais, enfin...
Alors, quelle est votre interprétation? Parce qu'on a dit que ce n'était pas la beauté, mais que c'était le Christ ou que c'était la vérité.
Vincent Macken.
Moi, je n'ai pas une réinterprétation de cette phrase-là, parce que c'est pas vraiment, je n'ai pas accès à mon travail là-dessus du tout.
Non, ce n'est pas une adaptation. Ce n'est pas une adaptation de l'idiot. Hein.
Par contre,
c'est une réécriture, manifestement.
Moi, à mes yeux, l'idée de la beauté, c'est l'idée de la naïveté. C'est-à-dire, en fait, quand je parle de naïveté, pour moi, ce n'est pas de la bêtise au sens propre, c'est plutôt l'idée ou l'espoir d'être entendu. Ça veut dire, c'est comme ça que j'interprète ce que c'est que la naïveté. C'est-à-dire que l'espoir que quand on dit quelque chose, ça soit entendu par les autres. C'est quelque chose d'assez évident, mais qui n'est pas si évident que ça. Et pour moi, le prince Mishkin, donc ce personnage-là, il a cet espoir-là en lui. C'est que quand il parle, il pense qu'il est entendu, en fait. Et donc, il continue à parler.
Il y a quelque chose de christique là-dedans, non?
Parce que, évidemment, mais...
Est-ce que le Christ est entendu? Est-ce que l'artiste est entendu?
Évidemment, mais je n'aime pas du tout répondre à cette chose, puisque je trouve que, justement, le roman dépasse ça. Mais évidemment, puisque Dostoïevski, il écrit l'idiot quand il a vu cette peinture du Christ allongé, qui est très réaliste, et il a essayé de faire une sorte de Christ très réaliste. Mais je trouve que par rapport au spectacle, on va vraiment ailleurs. Donc j'ai beaucoup de mal à... Je trouve que c'est pas très juste par rapport au spectacle.
Pardon, je n'ai pas vu votre pièce, effectivement.
Mais nous, on l'a vu, donc on va pouvoir en parler, et plus précisément dans la façon dont on parle, justement, dans ce spectacle. On resitue légèrement l'action. On est à Saint-Pétersbourg, c'est l'anniversaire de Natasia. Le vieux Tovski qui l'a élevée et qui en a fait sa maîtresse veut la marier à Gania, un honnête consultant. Mais deux personnages vont contrarier l'union. D'abord, le prince Mishkin, qui rentre de l'étranger où il a fait soigner son idiotie et qui lui propose de la sauver. Mais elle lui préfère le trouble et violent Rogojine. Alors la société va se déchirer autour du prince Mishkin, un sublime idiot qu'elle finira par détruire. Lucille Comeau.
Alors lorsque le prince Mishkin fait sa première apparition sur scène dans votre spectacle, il raconte une histoire, l'histoire de la petite Marie, un personnage qui est conspué par tous pour s'être donné à un homme, une histoire qui contient déjà beaucoup des enjeux du roman et de votre spectacle. Et là, Pascal Reinerik, qui joue donc l'idiot, le prince, prend l'accent belge. C'était son idée à lui ?
Non.
C'était votre idée à vous?
Oui.
Pour se faire entendre, justement?
Oui, puis j'aimais bien l'idée, en fait, pour régler le problème, en fait, même du titre du roman. Mais en fait, pour régler ce problème-là de qu'est-ce que c'est que... qu'est-ce qu'il était avant, en fait, parce que c'est assez mystérieux, finalement. Du coup, c'était une manière, en fait, de tordre cette idée-là de l'idiotie, etc., et de montrer le jeu qu'il pouvait avoir lui-même. Enfin, ce personnage-là, il a une forme de jeu avec sa naïveté. Mmh. Et du coup, on a essayé de tenir cette chose-là et de la tenir assez longtemps pour presque que ça ne devienne pas vraiment un gag, mais que l'idée même de l'idée comme ça, de l'idiotie, quoi. Mais bien sûr qu'il n'est pas idiot. Ouais, pardon.
Qu'est-ce que c'est que la naïveté, alors? C'est un regard brut sur les choses?
Judith Broust.
Du coup, on parle du roman ou
non,
parle
non, de la pièce, de la façon dont vous avez travaillé justement cette idée de la naïveté.
Je vais me répéter encore, c'est l'espoir d'être entendu. Vraiment, je pense que, et ça, je pense pas que d'ailleurs, dans mon spectacle, je crois que cette chose-là est traitée par avec tous les personnages, quoi. En fait, elle est traitée tout le temps.
Et par le niveau sonore que vous imposez dans la pièce. C'est-à-dire que, quand on entre dans le spectacle, le théâtre nous distribue, on s'en sert ou pas, des boules, je sais pas comment on appelle ça, des bouchons d'oreilles, des bouchons d'oreilles, des bouchons d'oreilles, pour montrer véritablement le volume sonore, et tous les personnages vont s'exprimer par le cri, les vociférations, donc on sent bien qu'il y a une génération qui a à se faire entendre. Alors, on vous a demandé un son, comme à tous nos invités, Vincent Macken, et voici ce que vous avez choisi.
Les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celle qui protège la dignité et la liberté de chacun d'entre nous.
T'es boulin.
Alors, non, c'est identification du son, Vincent McCain.
Bah, c'est Mitterrand, mais alors là, c'est pas moi qui l'ai choisi ce son.
Ah bon, c'est pas vous qui l'avez choisi.
Dites-moi.
Bah, si, normalement, c'est vous qui avez dû choisir, mais peut-être avez-vous oublié. C'est le son qu'on nous a demandé. Enfin, je sais pas qui vous. Lucide, il va falloir élucider ça.
Pourquoi moi? Bon, alors, peut-être... Non, vous aviez demandé d'évoquer la mort de Bérégovoy.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on avait choisi.
Ouais, j'ai dit plusieurs choses, en fait.
Ouais.
Des choses qui m'ont marqué dans mon enfance. Je crois que j'ai peut-être mal compris.
Non, c'est parfait. Et donc, la mort de Bérégovoy avait été importante dans...
Je pense que c'est très important, mais ça m'a marqué. Ouais.
Vous savez pour quelle raison, véritablement, ce qui s'est joué là pour vous?
Parce que, encore maintenant, il y a une forme de mystère là-dedans, en fait. Ou en tout cas, il y avait une sorte de... À l'époque, j'étais enfant, hein, à l'époque, quand c'est arrivé, j'avais l'impression, une sorte d'impression de mystère, limite shakespearienne. Et du coup, ça, encore maintenant, il y a une sorte de mystère là-dessus. Et cette idée-là aussi de... Parce qu'en fait, je parle vraiment des souvenirs d'enfance.
Oui,
donc
oui.
Du coup, je parle même pas de politique. Hein, je parle vraiment de quelque
Tout
chose
à fait.
De l'ordre du fantasme de ce personnage-là. J'avais l'impression que c'était une sorte de... Bah, d'ailleurs, un personnage assez pur. Et du coup, ce suicide-là, c'était comme la mort d'une sorte d'idéologie. Mais je parle vraiment purement de fantasme, en fait.
C'est la corruption qui l'a tué.
Oui, oui.
Donc,
mais...
on est dans Shakespeare.
Oui.
On est déjà dans...
Mais on est aussi
mais
dans...
Coup, quand je me rappelle de ça. Je me rappelle des images aussi de l'endroit où il s'est suicidé, près de la petite, une petite rivière. Enfin, petite. Et du coup, j'étais assez marqué, mais j'étais vraiment jeune. Hein. Et je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'est resté comme une sorte de marque de la souillure. Puisque... Je sais plus, hein, c'est vraiment des souvenirs lointains, mais ça avait vraiment pas l'air clair. J'avais le souvenir enfant que c'était absolument pas clair. L'information là-dessus était très peu claire. Donc, voilà.
Lucile.
Alors, je reviens.
Mais j'avais parlé aussi de la guerre du Golfe.
Exactement. Il y avait plusieurs sons.
Ouais.
Vous avez été très généreux sur le son. Ouais. Alors, allez-y, oui, sur la guerre du Golfe et le mur de Berlin.
Oui.
On avait, nous, choisi la mort de Bérégovoy parce que ça nous paraissait beaucoup plus étrange. Mais peut-être que vous aviez voulu développer sur...
La mort de Bérégovoy, c'est intéressant par rapport même à David Lynch, puisque, en fait, dans un sens, c'est un souvenir d'enfance. J'ai pris ça comme un souvenir, comme une sensation. J'avais une sensation d'étrangeté totale avec des gens qui nous dirigent. Donc, c'était la première fois que je me suis dit, dans ma vie, il y a un énorme problème avec ceux qui nous dirigent, puisque quelque chose nous échappe totalement.
Alors, L'Idiot, c'est vraiment le roman dostoïevskien de la dégénérescence des élites russes et du désespoir politique, vous le disiez. Et après l'entracte, pardon, quand on revient dans la salle, il y a une télévision sur scène, dans un coin, qui diffuse le début de l'entre-deux-tours, le débat pardon, de l'entre-deux-tours de la dernière présidentielle entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Comment est-ce que ça résonne pour vous aujourd'hui? J'imagine que la vidéo n'était pas là en 2009. Pourquoi l'avoir rajoutée?
Bah, évidemment.
Et pour cause.
Non, en fait, à l'époque, c'était Sarkozy.
Ah, vous aviez ça. C'était Sarkozy, d'accord.
Et en fait, donc déjà, parce qu'en fait, quand je l'ai monté, j'avais une forme de colère comme ça sur la France, qui était beaucoup plus précise. Et en fait, pour des raisons X et Y, j'ai revu la vidéo du spectacle qu'on avait fait en 2009.
Ouais.
Je devais monter La Montagne Magique de Thomas Mann, qui est pour moi quand même un roman beaucoup plus dépressif et où une forme d'abandon comme ça, de mort dans une chose cotonneuse.
Mm-hmm.
Bon, pour moi, à mes yeux. Et quand j'ai revu ce spectacle et que j'ai entendu ce texte, j'ai revu comme ça la vidéo, j'ai réentendu des choses que j'avais moi-même besoin d'entendre, où j'étais moi-même en train d'abandonner une forme, alors ce que j'appelle naïveté, mais une forme de guerre en moi-même et d'espoir que... Ouais, d'espoir, pas de changer les choses, ça veut rien dire, parce que... Mais en tout cas d'agir, en tout cas sur moi-même et sur ceux qui m'entourent. Et dans l'idiot et dans le spectacle, il y avait cette chose-là. Et en fait, cette chose-là, je l'ai réentendue après, du coup, Hollande. Hein.
Mm-hmm.
Vous voyez ce que je veux dire, mais... Et il y avait cette chose, cette forme de mélancolie qui, à mes yeux, s'installait petit à petit, d'abandon comme ça, de mollesse peut-être, en fait. Donc la colère d'un côté, et maintenant, de ne pas savoir comment je pouvais coller ma colère ou je ne savais plus vraiment comment faire. Et du coup, j'avais envie de parler par la montagne magique. J'ai abandonné ce projet-là pour reprendre l'idiot parce que je pensais que c'était important de ne pas rajouter ma goutte d'eau dans la mélancolie ambiante, mais plutôt de rajouter une forme de...
De revenir à une colère, alors.
Ouais, de colère amoureuse. De dire, en fait, c'est encore possible, en tout cas, de parler. En tout cas, on a encore foi. C'est encore possible d'avoir foi. Et aussi parce que, moi, j'ai du théâtre, mais le théâtre public et la France publique, entre guillemets, je trouve ça, c'est une belle utopie. Je trouve que c'est une utopie assez belle. Quand j'ai fini la dernière d'Idiot à l'époque aussi, j'ai eu un problème de santé un peu grave. Et je me disais, j'étais soigné comme ça, d'une manière assez automatique, par les hôpitaux de Paris. Et je me suis dit, tiens, c'est une belle invention à la sécurité sociale. Et je me suis dit, théâtre public aussi. Il y a une forme de mission là-dedans. Et du coup, c'était aussi une manière de dire, c'est un spectacle démesuré, qui nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup plus qu'on deux, beaucoup plus, une sorte de supplément d'âme. Il y avait comme ça l'idée de la mission. La guerre, quoi. Quand il dit, j'ai 27 ans, et si je ne vous parle pas là maintenant, ça ne servira à rien tout ce qu'il y a eu avant. Et j'avais peur pour moi, mais maintenant j'ai peur pour vous, pour nous tous, ensemble. Toutes les choses que dit le prince Mishkin. Oui, il devient lui-même monstrueux en le disant d'ailleurs. Mais je trouve ça important de se remettre ça dans les oreilles et moi-même de me reconfronter ça d'une manière assez violente. Parce que quand on fait du théâtre, on est obligé de se reconfronter à ce texte tous les jours. Et cette chose-là, qui est une parole, en fait, de guerre. Après, cette parole-là, elle est ambiguë. Et là, je trouve qu'en ce moment, c'est un moment qui est grave, parce que, comme à l'époque de l'idiot, une époque où, oui, il y a beaucoup de souillures, beaucoup de choses qui tombent, beaucoup de choses qui naissent, à ce moment-là, c'est des moments qui sont susceptibles, où il y a le danger de l'intégrisme, en fait, le danger du fascisme. Et même en discours de l'idiot, qui semble très beau, je pense que dans son discours contient aussi une forme d'intégrisme, en fait. Et du coup, je trouve que c'était ça qu'il fallait que je réentende, moi, et qu'il fallait que je fasse au moins réentendre, pas à mes acteurs, mais aux gens qui m'entourent, quoi, à mes camarades. Et j'espère que le public peut réentendre ça.
Alors c'est intéressant parce que la pièce parle aussi de l'état du théâtre, vous venez de le mentionner, avec la mission du théâtre public. Et je sais que vous comparez l'idiot au théâtre de Strindberg et de Tchekhov. Et d'ailleurs, vous avez joué dans La Cerisée, notamment, je crois que c'était sous la direction de Julie Brochen. Où peut se situer la ressemblance entre l'idiot tel que vous l'entendez de Dostoïevski et tel que vous le retravaillez aujourd'hui avec le théâtre de Tchekhov?
Le théâtre de Tchekhov ou de Julie Brochen?
Le théâtre de Tchekhov.
Parce qu'il n'y en a aucune, hein, de la raison possible.
Oui, tout à fait.
Excusez-moi.
Non, parce que La Cerisée, c'est quelque chose qui entre votre propre même. Et vous aviez réalisé un court-métrage qui était adapté de La Cerisée. Donc il y a quelque chose qui se joue aussi avec cela.
Mais moi, j'aime beaucoup, déjà, de toute façon, ces auteurs-là me fascinent. Parce qu'en fait, ils ont écrit à une époque où le socialisme, le crédit par paiement, le crédit, le salaire par paiement mensuel, le capitalisme, le libéralisme, toutes ces idées-là, elles ont été créées, les concepts même ont été créés à leur époque. Et je trouve que on n'en arrive pas au bout, mais en tout cas, on peut faire un petit point dessus maintenant, je crois maintenant. Et puis, bizarrement, en ce moment, il y a des nouvelles choses qui se créent, même Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se créer, des nouvelles façons de communiquer, de penser, etc. Et du coup, au moment où ces auteurs vivaient, plus ou moins, il y avait toutes ces choses qui étaient en train de se mettre en place. Et toute une vieille organisation qui était en train de couler. Donc il y a des choses qui font écho d'une manière assez, assez folle. Et d'ailleurs, dans l'idiot, j'ai beaucoup... C'est vraiment librement... aspirer, c'est vraiment d'après l'idiot. Et par contre, il y a des textes que j'ai vraiment laissés, et dont, par exemple, le texte sur Paris. Alors, souvent, on croit que, quand je parle avec des amis, ils croient que...
Que c'est vous qui l'avez écrit.
Oui, mais en fait, non.
C'est dans l'idiot.
Ça, c'est pas dans l'idiot, c'est dans un livre qui s'appelle Le Bourgeois de Paris.
Il faut pas oublier que l'idiot a été écrit presque à l'époque de la Commune, c'est-à-dire en 1800, d'après mes souvenirs, en 1869 ou 70. Donc, oui. À une époque vraiment où tout ça est très...
Oui, par contre, dans l'idiot, il ne parle pas du tout de Paris,
non.
Je tiens à dire. Mais par contre, il a fait un livre, parce qu'il est venu en vacances, on va dire, je ne sais pas comment expliquer, à Paris.
Comment en villégiature.
Et du coup, c'est assez beau. Ça s'appelle le Bourgeois de Paris. Il dit qu'il voit qu'il a vu la fin du monde en voyant le public parisien voir les expositions à Paris. Et il parle du théâtre à Paris. Il dit que les artistes français, enfin les metteurs en scène, ne sont pas capables de faire autre chose que du mélodrame. Qui déteste les Français.
Vincent Macaigne, vous dites vous-même que vous êtes très difficile avec vos acteurs. Qu'est-ce que vous leur demandez ?
Oui, ils sont très difficiles aussi avec moi. Hein, c'est un peu.
Alors, qu'est-ce qu'ils exigent de vous alors ? Comment ça se joue entre vous ?
L'exigence. On s'exige. En fait.
Vous êtes très directif, vous êtes sur le plateau avec eux, vous mimez les choses comme d'autres metteurs en scène ? Sachant c'est que vous êtes vous-même comédien.
Ouais. Non, je crois pas. Enfin, je suis assez directif, mais par contre, je crois que je leur demande de prendre pas la parole. De toujours essayer de prendre la parole, de parler en leur nom. Donc, ce qui est très difficile, parce que le texte est quand même écrit, mais d'essayer de créer cette parole-là, d'être très clair dans cette parole-là. Et de travailler comme si, d'essayer de faire que le moment de la représentation est un accident, est une forme de long accident. Et ça, c'est assez. On va dire que c'est assez évident, mais c'est pas si évident que ça, parce que un acteur, les répétitions, il essaie de se rassurer pendant 2 mois, à se dire tiens, je vais aller d'un point à un autre. Ouais. Et donc souvent, ce que je dis, c'est que les répètes, c'est pas un trajet d'un point A à un point, je sais pas, genre L, peu importe, mais c'est un. Il y a pas de trajet. C'est que de l'accident. Et ça veut dire aussi que cette mission dont je parlais du théâtre public, par exemple même, c'est-à-dire que jamais, ça ne va jamais. C'est toujours, on peut toujours faire quelque chose de mieux. On n'a jamais abouti le travail. Il n'est jamais assez bien. C'est jamais assez grand. C'est jamais. Ça ne doit être que raté tout le temps pour qu'on puisse toujours le refaire.
Alors, on va parler de vous, acteur, parce que vous l'êtes aussi, pas dans cette pièce-là, mais dans votre propre théâtre, et aussi au cinéma, parce que l'année dernière, on vous a vu dans toute une série de films français. Alors, notre réalisateur Thomas Beau a réalisé un montage sur une certaine idée de « Faut qu'on parle », montage.
Personne ne me regarde. Personne ne semble me voir. Je dois venir d'un autre espace-temps. J'existe pas. Et je me sens désespérément seul.
Moi, j'ai envie qu'on en parle.
Moi aussi, j'ai eu une histoire. J'ai pas toujours été tout seul. Donc, c'est l'histoire d'un type. Moi. Qui avait une fille dans la peau. Et un jour, cette fille, elle est partie. Et ce gars, il a eu un cancer de la peau. Et c'est la fille qui est morte.
Ça a été le jour de la révélation. Il faut que j'arrête de fumer. Il faut que je trouve un vrai métier parce que là, comme activité dans la vie, je suis dans une grosse période de démission. Hein. Donc j'ai 33 ans.
Toi, j'ai plus 12 ans. Et puis c'est trop facile.
Vous êtes jeune, hein. Rassurez-vous de moins en moins.
Et puis c'est pas à toi de décider de quoi on peut parler, d'accord ?
Il faut que vraiment quelque chose se passe. Hein.
Moi, j'ai envie qu'on en parle. Ah non, mais c'est idiot parce que je ne sais pas quoi dire.
Et vous asseyez là, monsieur, c'est pas terminé encore. Donc.
J'en ai ras le cul là, ça fait la troisième fois que je me fais humilier dans la journée, j'en peux plus là.
Non, mais enfin, en fait, on voulait piquer de l'essence quand on s'est fait griller. Et là, il y a un type qui s'est ramené, qui m'a mis son cutter sous la gorge comme ça. Et là, Léon, qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, j'ai envie qu'on en parle. Il a pris de l'essence, il a aspergé le type d'essence et il a menacé de le brûler vif. Le panache.
On en reparle, hein.
On est très heureux de vous recevoir, Vincent Macaigne, parce qu'on a parlé de vous chaque fois qu'on a reçu tous ces réalisateurs, Lucille Comeau.
À savoir Justine Trier pour La bataille de Solferino, Tonnerre de Guillaume Braque, La fille du 14 juillet de Antonin Pérez-Jatko, Tristesse Club de Vincent Mariette et Deux automnes, trois hivers de Sébastien Bedbeder. Bref, toute une jeune génération du cinéma français qui ont fait de vous leur acteur fétiche. Vous voyez une différence, vous, entre ce qu'on vous demande au théâtre ou ce qu'on a pu vous demander au théâtre et ce qu'on vous demande aujourd'hui au cinéma ?
Ah bah oui, évidemment, puisqu'on... C'est pas du tout la même chose hein, de jouer au théâtre ou de jouer au cinéma. C'est pas du tout la même. Pour résumer ça, en fait, mais là je parlerai plus en tant que metteur en scène, mais je trouve que ça résume quand même mon rapport au cinéma. Au cinéma, en fait, on tue l'acteur en le filmant, et au théâtre, on se fait tuer par l'acteur quand il joue, en tant que metteur en scène. Ça résume un peu ce que je pense.
Ah, c'est plutôt beau, hein.
Oui.
Ah, c'est même pas mal du tout.
Mais je ne sais pas si ça parle beaucoup.
Si. Ouais. Judith Brousse, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais dire à quel point tout ce que dit Vincent Macaigne dans son travail de metteur en scène par rapport aux comédiens me fait penser à ce que j'ai entendu hier soir par hasard, ce que disait Roger Blin de son travail avec les acteurs, c'est-à-dire qu'il les laissait livrés à eux-mêmes, finalement. Et j'ai trouvé qu'il y avait une parenté, peut-être inconsciente, entre ce que disait McCain.
Je ne sais pas s'il les livre, je sais pas s'il voulait livrer à eux-mêmes.
Hein.
Non, je crois qu'ils sont, non, non, ils sont pas livrés.
Hein.
Non, je crois qu'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes.
Ils sont dirigés.
Non, c'est pas du tout livré à eux-mêmes. Je reste tout le temps, en fait, je suis tout le temps en haut et j'en fais des signes, même quoi, il faut qu'ils accélèrent ou pas.
Vous leur hurlez dessus.
Vous restez dans la salle quand vous dirigez ? Vous ne montez pas sur le plateau ?
Non, quand je dirige, oui, quand en répétition.
Ouais.
Pendant la représentation.
Pendant la représentation, vous êtes en haut dans la salle et vous les dirigez depuis...
Oui, mais là, de moins en moins. Et surtout, à la tête de la ville, je suis un peu loin, donc ils ne me voient pas. Et donc, ça crée beaucoup de quiproquos par rapport aux gestes, parce qu'ils ne comprennent pas tous mes gestes. Du coup, des fois, je leur dis plus rapide, ils commencent, c'est plus lent. Et ou l'inverse, j'en fais ça et ils se mettent à hurler.
C'est le bordel.
Un peu le bordel. Ouais.
Mais c'est très beau.
Le rendez-vous.
Rendez-vous.
Extérieur.
Extérieur.
Vincent McCain et Judith Broust, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Alors ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, eh bien, c'est le réalisateur Vincent Mariette, dont le premier long métrage Tristesse Club, avec vous Vincent McCain, sort en DVD chez Blackout. Questionnaire cinéma Vincent Mariette, Manu Farine, dans la cour un peu bruyante, très bruyante, de la Fémis à Paris.
Le film ou le cinéaste de votre adolescence ?
Je crois que c'est Phantom of the Paradise. Et j'avais l'impression de découvrir un truc que les autres ne connaissaient pas. Enfin, c'était, pendant longtemps, c'est resté mon film à moi. Et j'étais presque déçu quand d'autres m'en ont parlé.
Premier film réalisé ?
C'est un film ici, à la Fémis, qui s'appelle Cavalier Seul. Ça se passait dans la communauté arménienne. Et c'était, c'est un peu immodeste, mais c'était l'ambition, c'est de faire un truc shakespearien dans un rapport père-fils. Je l'ai revu une fois à la Cinémathèque, mais c'était assez douloureux. Je voyais toutes les erreurs des premiers films et de trucs très intentionnels. Des erreurs de rythme, des erreurs de scénario, des erreurs de mise en scène, des erreurs de direction, toutes les erreurs possibles qu'on fait sur un film. Des erreurs de montage beaucoup aussi.
Le cinéaste que vous aimiez et que vous n'aimez plus ou que vous aimez moins ?
Je pense que c'est Carax. En fait, j'aime toujours beaucoup Carax, mais j'ai vraiment idolâtré Carax. Et après, j'en suis un peu revenu où il y avait une naïveté qui m'ennuyait des fois, une naïveté de cinéma qui est belle, mais qui des fois aussi... m'exaspérer un peu. Donc je suis toujours en train de naviguer entre mon amour pour Carax et des déceptions.
Le cinéaste que vous avez fini par aimer ?
Je crois comme beaucoup de gens, Spielberg. En m'intéressant à Carax, je me suis intéressé à Godard, puis à la Nouvelle Vague. Enfin, voilà, un endroit de cinéma qui n'était pas exactement celui de Spielberg, même si on peut y voir des passerelles. Et comme j'étais jeune et forcément un peu con et un peu arrogant, quand on est un jeune cinéphile, je me disais que Spielberg, non, c'était pas pour moi, ça ne me plaisait pas. Et en plus, comme j'aimais ses films étant petit, j'avais une sorte de révolte contre ça. En grandissant un peu plus, je me suis rendu compte que c'était souvent génial. C'est une façon de questionner la famille américaine et la question du mal qu'il a dans tous ses films, ce qui le fait avec une finesse, une subtilité que je ne saisissais pas du tout un peu plus jeune. Ouais.
Le film que vous avez revu ?
Conversation secrète de Coppola, qui m'a vraiment absolument bouleversé. J'ai l'impression d'être face à un film parfait. Je trouve qu'il y a une parfaite cohérence entre la musique, la mise en scène, le jeu de Gene Hackman. Il y a des scènes que je trouve extrêmement cohérentes et qui ont encore pour moi un mystère, une sorte de magie. Et ça, qu'un film arrive à conserver ça au fur et à mesure des revoyures, je trouve ça fabuleux. Des moments où je me dis, putain, c'est vraiment génial. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça, mais c'est totalement logique et ça me dépasse. C'est à ça que j'aspire. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais c'est à ça que j'aspire.
Le film que vous avez honte d'aimer ?
Point Break, je n'ai pas honte de l'aimer. Après, ça peut être un peu honteux parce que c'est un film que je voyais vachement ado, sur des surfeurs, mais c'est quand même vachement chouette. Je trouve que ce serait ça. J'aime beaucoup Papy fait de la résistance. Aussi.
Le film que vous aimez faire découvrir ?
Fut un temps, c'était Gumeau d'Harmonie Corinne. Et en fait, je pourrais presque dire c'est comme Petit Quinquin, parce qu'une communauté de gens, sauf que dans Petit Quinquin, il y a au moins une trame narrative. Là, il n'y en a pas. Mais c'est toutes les scènes, c'est de la poésie pure. Il y a Chloé Sevigny aussi, dont j'étais très amoureux. C'est aussi pour ça que j'aimais beaucoup ce film. Ouais.
Le personnage de cinéma que vous auriez aimé être ?
Le personnage de cinéma que je fantasmerais d'être, que j'aurais aimé être plus jeune si j'avais vu le film plus jeune, c'est le personnage de River Phoenix dans À bout de course de Sidney Lumet, qui est un personnage extrêmement romanesque et qui décide de tout quitter par amour. Si j'avais eu du courage et si j'avais été dans cette situation, donc ça fait beaucoup de si, je crois que c'est ce personnage que j'aurais aimé être.
La question que vous n'avez pas encore posée à Vincent McCain ?
C'est dur parce que j'ai fait deux films avec lui, j'en ai beaucoup posé des questions. C'était de savoir s'il avait aimé mon film, en fait, je crois. Ouais, ça doit être ça.
Vincent Mariette, merci.
Vincent McCain, peut-être un commentaire par rapport à ce qui a été dit ?
Non, moi j'ai adoré son film.
Bien sûr. Une question purement rhétorique.
Comment ?
C'est une question purement rhétorique, manifestement.
Non, mais il est génial, hein ?
Ouais.
Je sais pas quoi répondre, il parle tellement bien, je trouve, il parle vachement bien.
Oui,
il est très anglais, hein, je trouve. Il y a une sorte d'humour anglais hallucinant.
Oui, il y a un cinéma plus particulier.
Je pense que Vincent Mariette, il n'a pas fini de grandir. Ouais. Non, non, mais pour de vrai. Il a une sorte d'univers comme ça, à tiroir, et une sorte d'ambition qui n'est pas finie de grandir. Je trouve que c'est que le début de quelque chose. C'est une forme de, il y a une forme de promesse permanente en lui.
Vous avez un film fétiche ?
De film fétiche dans la vie, vous voulez dire ? Un film fétiche,
moi. À part Papy fait de la résistance.
Non, j'ai pas ce film fétiche que je revois, que je revois beaucoup. Oh non, pas vraiment. Non, j'ai des films qui m'ont un peu, qui m'ont marqué à des moments. Est-ce que je vous dis ça ou je vous réponds des films qui m'ont marqué ?
Allez, dites.
Mais c'est nul.
Bah, c'est pas grave.
Je pense que c'était Malas on Privati Dao, d'ailleurs. Ouais. Ça m'a marqué à un moment donné.
Justement avec River Phoenix.
Ouais. Ouais. Mais peut-être que je me dis ça parce que Vivi, j'ai entendu son nom, alors du coup, je...
Ouais. J'ai des broustes, un commentaire à ce que vous venez d'entendre. Vous aussi, est-ce qu'il y a un cinéma, vous avez écrit sur le cinéma, un cinéma précis qui a pu vous fonder comme cinéphile ?
Ben, Vampire de Dreyer, sûrement, tout le cinéma de Dreyer, beaucoup le cinéma muet aussi, Sechtrom, Le Vent, tout ce cinéma d'avant les années 30 et autour des années 30.
C'est assez cohérent avec ce dont on va parler tout de suite.
Le rendez-vous, Laurent Goumard.
Plateau Frankenstein avec vous, Judith Broust, éditrice et écrivaine. Vous publiez en cette rentrée votre 8e roman, Le Cercle des Tempêtes, chez Gallimard. Vous y faites le récit des errances tragiques du grand poète anglais Percy Shelley au début du 19e siècle. On y croise ses maîtresses, ses femmes, parmi lesquelles bien sûr Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein. Alors le roman s'inscrit dans ce qu'on appelle une veine biographique, qui a un nom aussi, l'exofiction, un récit biographique donc, que vous avez encadré par deux chapitres que vous signez à la première personne, un jeu donc, diminué par une ablation des seins. Comment vous avez mis en place ce dispositif, encadrer le récit biographique sur Shelley par ces deux, on va dire, autofictions en fait. Judith Broust, comment vous avez décidé de ce dispositif ?
Il n'y a jamais de gratuité dans ce que j'écris. Donc il y avait une nécessité au départ et la nécessité, elle était anatomique si je puis dire. Je me suis retrouvée du jour au lendemain comme avec quelque chose de monstrueux. Avec ces immenses cicatrices qui me barraient la poitrine. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que, si on ne se ressemble plus, qu'est-ce qui se passe dans l'image qu'on a de soi-même ? Ça va bien au-delà, bien sûr, de l'idée du narcissisme. Et je me suis posé cette question, qu'est-ce que c'est qu'être un monstre ? À ce moment-là, j'ai voulu regarder le livre de Frankenstein, de Mary Shelley, et je me suis demandé... Qu'est-ce qui avait amené cette femme de 19 ans à écrire ce livre aussi horrible et aussi terrible ? Qu'est-ce qui s'était passé dans sa propre vie ? Parce que je crois qu'il y a toujours une corrélation, une relation entre ce qu'on vit et ce qu'on écrit, bien sûr.
Pourquoi vous avez commencé l'écriture de ce roman ? Par justement ces autofictions ou par le récit biographique ?
Les deux, c'était un double attelage. J'ai commencé par mon propre corps, je suis arrivée au corps, si je puis dire, de Frankenstein, au corps des Shelley, puisqu'il faut les prendre ensemble, hein, toute la famille.
Alors, première image du roman, mais c'est le souvenir du défilé de la troupe new-yorkaise du Living Theater en 1967 dans les rues de Bordeaux, avant leur représentation de Frankenstein Paradise Now. Qu'est-ce que vous avez vu dans ce défilé qui a pu vous marquer pour que vous y reveniez comme ça aujourd'hui, des années plus tard ?
Ça a été une sorte d'explosion. Il faut se remettre dans le contexte de Bordeaux dans les années 67. Le théâtre, c'était quoi ? C'était le théâtre de boulevard. On savait qu'il existait Beckett, qu'il existait Genet, qu'il existait Adamoff, mais il était impossible de voir ce théâtre à l'époque en province. Et tout d'un coup, le Living Theatre est arrivé. Il y avait un festival qui s'appelait Sigma. Et le Living Theatre a déboulé, on peut dire, dans ces rues de Bordeaux qui étaient noires et grises. Et ce Living a été l'irruption de quelque chose de complètement nouveau et en même temps c'était une propre création quand ils étaient dans les rues.
Le Living Theatre, est-ce que c'est aussi une référence pour votre propre travail, Vincent McCain? On a tenté de le croire, hein, mais...
Ben, non, mais je ne connais pas, j'ai jamais vu de spectacle du Living Theatre. Donc, du coup, je...
Même si dans les années 80-90, il se produisait encore, hein, encore.
Oui, enfin, c'était la fin. Oui. Les grandes années du Living, ça a été les années 60. 70. Et ça a été la création de Frankenstein, de Paradise Now, de...
Ben, ce matin, c'est quoi ces défilés? Parce que c'est ça que nous, on commence dans la rue, du coup.
Vous commencez dans la rue, oui.
C'est-à-dire que le théâtre, ils étaient sur la scène et en même temps, ils descendaient dans le public, en hurlant. Et ça, il faut s'imaginer le public bordelais qui regardait ces êtres alors complètement habillés, n'est-ce pas? C'était la pré-période hippie quand même déjà, donc ils étaient avec en velours, chamarrés, avec des couleurs, des maquillages extrêmes, du bleu, du rouge, et ils sont descendus vers le public en hurlant. Le public était tétanisé, il ne savait pas s'il devait partir, se sauver en courant. Tout d'un coup, il y avait l'image de la cruauté. Et c'est là que je me suis dit, voilà, c'est ça le théâtre, c'est ça l'art finalement, c'est rentrer dans la chair de celui qui vous regarde ou de celui qui vous sent.
Quand vous hurlez dans la salle et quand vous défilez même dans la rue avant le spectacle, qu'est-ce que vous attendez de ce rapport spectateur-acteur, Vincent McCain?
Moi, c'est plutôt l'idée de déjà d'une part de casser une sorte de rituel, à mon avis, un tout petit peu bourgeois, du théâtre. Et donc, du coup, d'essayer de prendre par la main, bizarrement, un peu bizarrement, en fait, parce qu'on peut croire que c'est brutaliser les gens, mais c'est aussi une manière de dire on part du même chaos et d'amener les spectateurs au même endroit de chaos que nous-mêmes. Enfin, de s'accorder, en fait. De se laver, de s'accorder. Comme si... j'avais besoin de partir d'une page, bizarrement, d'une page neutre, mais que la page n'est tellement plus neutre que du coup, on est obligé de la gribouiller pour qu'elle devienne neutre.
Il y a quelque chose d'assez proche, évidemment, du Living.
Ça, c'est le début du roman. La suite.
Au cœur du roman, il y a donc deux œuvres. Il y a Frankenstein de Mary Shelley et puis Prométhée délivré de Percy Shelley. Deux œuvres qu'il faut, dites-vous, déchiffrer. De quel mystère est-ce qu'elles sont la clé?
Parce que déchiffrer, c'est le terme que vous employez.
Oui, parce qu'il y a quelque chose de très étrange dans l'écriture de ces deux romans, puisque Mary Shelley écrit le Prométhée moderne, qui va s'appeler Frankenstein. Prométhée moderne, c'est le sous-titre du Frankenstein. Et pendant que Mary Shelley écrit ce livre, Shelley écrit le Prométhée Unbound, c'est-à-dire le Prométhée délivré. Donc il y a ces deux faces, l'une noire et l'autre solaire, on peut dire, qui écrivent ces deux êtres qui vivent ensemble, il ne faut pas l'oublier, et qui vivent ensemble en communauté, puisqu'il y a aussi la sœur de Marie, avec beaucoup de bouleversements. Donc ces deux livres sont très emblématiques de quelque chose qui se passe entre deux aussi.
Je voudrais revenir sur le rapport à la poésie, puisque donc Percy Shelley était poète. Vous-même, vous avez écrit de la poésie dès le début des années 60. De la poésie que vous vendiez à la terrasse des cafés, de quoi s'agissait-il? Qu'est-ce que vous écriviez à cette époque? Quel était le sujet de ces poésies?
À cette époque, oui, je suis arrivée à Paris, il fallait d'abord vivre. Et on vivait à la Contrescarpe, comme ça. Il y avait des gens qui chantaient, il y avait des gens qui faisaient du théâtre de rue. Et moi, je n'étais pas trop dans l'expression. Et je me suis dit, je vais écrire des poèmes. Et je vendais mes poèmes à la terrasse des cafés. Je les proposais comme ça pour avoir un peu d'argent, mais sans jamais les dire.
C'était important de ne pas les dire?
Oui, il me semblait que... Alors, on rejoint un peu ce que disait McCain tout à l'heure, c'est-à-dire, lui, il veut être entendu, et moi, je voulais être lu. Et c'est pas évident d'être lu quand on écrit, comme ce n'est pas évident d'être entendu quand on fait du théâtre.
C'est vrai, ouais, c'est juste. Ouais.
Lucille.
Judith Brousse, comme tous les jours, on demande donc à nos invités d'apporter un son, et vous avez apporté ça.
Secrets travel. I start to believe if I were to leave,
sky, the moon shakes his hands held high.
Identification de ce son.
Judith Proust.
Eh bien, c'est Bowie, I'm the Range. Et c'est la bande-son du film Lost Highway de David Lynch. Enfin, une des parties de la bande-son.
Pourquoi avoir choisi ce son? Vous qui comparez d'ailleurs Pershing Shelley à David Bowie dans le roman.
Oui, c'était pas en liaison avec Shelley. C'est un disque que j'écoute beaucoup en ce moment, dans le nouveau travail que je suis en train de préparer. Donc, c'est comme ça.
Vous écrivez toujours en musique? La musique a toujours un rapport avec le travail que vous menez?
Non, je n'écris pas en musique, mais j'écoute et j'entends avant et après.
Quel travail vous êtes en train de mener, donc, en relation avec ce que l'on entend?
Ces années-là.
On s'en rappelle plus. Lucille.
Judith Proust, on peut classer l'œuvre de Percy et Mary Shelley dans la catégorie de la littérature gothique, du romantisme noir. Est-ce que vous, vous vous définiriez comme une écrivaine romantique?
J'ai pas trop envie de me définir, ni dans le romantisme, ni ailleurs. Je suis une écrivaine d'aujourd'hui. Mais c'est évident que je rejoins certaines obsessions et certaines peurs et certaines trouées du romantisme noir.
À la toute fin du roman, vous liez trois noms. C'est très intéressant parce que ça crée comme ça, j'allais dire, une dynastie de pensée. Il y a Shelley, il y a Arthur Cravant et Guy Debord. Cravant, c'est le poète boxeur du début du XXe, précurseur du surréalisme. Guy Debord, bien sûr, l'écrivain et philosophe des années 60. Quel serait le lien, quelle histoire de la pensée, en fait, est-ce que vous dessinez par ce roman? Parce que c'est de cela dont il s'agit aussi.
Bien, le lien, c'est la disparition. Ils disparaissent tous les trois. Shelley disparaît en mer. Cravant, on connaît cette histoire par un soir sur son bateau, sa femme enceinte l'attend au bord de la mer, il ne revient jamais, et Debord se suicide. Il y a quelque chose dans le travail de l'art qui m'intéresse, c'est comment on laisse des traces et comment on disparaît dans sa propre trace, en voulant être entendu et en voulant être lu.
Vous avez connu Guy Debord?
Oui, un peu, de passage.
Dans quelles circonstances?
Dans la rue. Tous les gens que j'ai connus sont des gens que j'ai connus dans la rue.
Jacques Lacan aussi?
Non.
On pouvait le rencontrer aussi dans la rue, j'imagine.
Non, Jacques Lacan était un maître. On le rencontrait dans un contexte précis.
Vous avez fait une analyse que vous avez interrompue quelques années après. Qu'est-ce qui ne convenait plus avec Jacques Lacan, Judith Proust?
J'ai commencé à écrire en 79, qui est l'année où j'ai terminé les 4 années d'analyse. Et j'ai plus trouvé la nécessité de m'allonger sur le divan de Lacan. Et puis, il se trouvait que lui aussi était un peu fatigué. Il est mort 2 ans plus tard. Donc, je suis partie. Il n'était pas trop d'accord, mais je suis partie.
Vous pensez que l'écriture et l'analyse étaient incompatibles? C'est à peu près la même histoire, d'ailleurs, qui s'est passée pour Catherine Millet quand elle a voulu écrire Les vies sexuelles de Catherine M. C'était pas avec Lacan, c'était avec...
Avec Charles Mellemans,
exactement.
Oui. Donc oui, il y a quelque chose qui se joue là, à un moment donné. Il faut quitter la parole pour retrouver l'écrit. Et c'est un passage qui doit se faire peut-être dans la rupture.
Un commentaire, Vincent McLean?
Oui, ça m'intéresse, mais c'est marrant parce que le théâtre, c'est une parole qui meurt, mais il faut bien l'écrire. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand on écrit, je pense que c'est une prise de parole. Je pense que tout est parole, en fait. Je ne pense pas que l'écriture soit autre chose que la parole. Et le cinéma, c'est pareil, c'est une parole. Tout n'est que parole.
Tout est verbe.
Voilà.
Elle dit...
Si on ne se ressemble plus, qu'est-ce qui se passe dans l'image qu'on a de soi-même?
Il dit...
Il n'y a pas de trajet. C'est que de l'accident.
Merci à nos invités. Vincent McKaigne, Idiot parce que nous aurions dû nous aimer, c'est au Théâtre de la Ville à Paris et c'est sublime, jusqu'au 12 octobre, puis au Théâtre Nanterre à Mandier, une séance de rattrapage du 4 au 14 novembre. Et je rappelle que vous êtes à l'affiche de Tristesse Club de Vincent Mariette, qui est sorti en DVD chez Blackout. Judith Proust, Le Cercle des Tempêtes, apparu aux éditions Gallimard. Eden quoi?
Eden.
On en
parlera aussi. Mais c'est dans longtemps, on va la recevoir. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Ah. A-D-O.
Demain, c'est de la musique, manifestement, avec Manu Dibango et à ses côtés, Olivier Poubelle. Des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Adrien Azeli et Hippolyte Babilote. Journal de la culture Zoé Sfez, à la technique Emmanuel Morse-Dincamp, Bruno Gagnère-Fontanil, à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Et oui, c'est un parti pris, Vincent Macaigne. Il est 19h54, vous écoutez France Culture. C'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.